J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futaies.
Palabre en forêt, l'émission Lozéro-Gardoise qui dévoile et décrypte l'actualité de nos forêts et de la filière bois.
Les initiatives locales et les actions d'ici et d'ailleurs sur la forêt.
Rendez-vous sur Radio Barthas 107FM.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Et vous êtes bien sur Radio Barthas, sur l'émission Palabre en forêt. Bonjour Virginie.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Et donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier, un chantier d'insertion par le bois, parce que je ne vais plus être à la charte forestière de territoire, mais je vais être coordinatrice d'un chantier d'insertion sur Ventalon-en-Cévennes. Et donc Virginie souhaitait m'interroger par rapport à ce nouveau contrat, sachant qu'après, en plus, je vais arrêter l'émission à la Grande Forêt.
Et oui, et donc on la garde un petit peu avec nous, elle part pas bien loin en Ventalon-en-Cévennes. Et du coup, l'émission reprendra en 2021 avec une nouvelle ou un nouveau animateur. Alors, on accueille du coup aussi Sébastien Cogliandreau. Bonjour Sébastien.
Bonjour Virginie.
Donc on est on le dit parce qu'on est par téléphone à cause de la crise Covid, comme tout le monde sait. Donc moi je suis avec Sébastien et Virginie est de l'autre côté des Cévennes avec son enregistreur.
À Ginolac. Voilà. Ouais. Alors du coup, est-ce que vous pouvez nous dire, mais qu'est-ce que c'est un chantier d'insertion par le bois?
Oui, alors avant de parler de ça, je voulais d'abord dire que le chantier d'insertion est porté par une ASA. Alors une ASA, c'est une association syndicale autorisée. C'est donc une association un peu spéciale. En fait, tout le monde connaît les associations loi 1901, mais beaucoup moins les autres types d'associations. Et donc ça, c'est une association de propriétaires. Ici, c'est les communes qui sont propriétaires. Et cette association, cette ASA, avait à la base était pour gérer les risques incendies. Ça s'appelait l'ASA des FPI du canton du pont de Montvert. Mais cette ASA s'est peu à peu transformée. Puis aujourd'hui, elle a pour principale mission de porter un atelier et chantier d'insertion. Et donc, le but est d'aider les personnes éloignées de l'emploi à retrouver un cadre et un accompagnement pour ensuite retrouver du travail. Donc, les agents, ils viennent là de 6 mois à 2 ans. Et ensuite, le but, c'est qu'ils puissent retrouver de l'emploi. Le chantier d'insertion a été créé en 1994, donc il est assez vieux. Oui. Et donc, il permet la réinsertion par le travail sur un public défavorisé, et puis, mais de lutter en même temps, en fait, sur tout ce qui est lutter contre la fermeture des paysages, ils font pas mal d'élagage. Enfin, Sébastien nous en parlera un peu plus. Juste pour dire qu'on est, le territoire d'action est principalement sur 3 communes, Pont-de-Montvert sur le Mont-Lozère, Ventalon-en-Cévennes, Vialas, et puis sur la communauté de communes des Cévennes au Mont-Lozère. Et le but est également de développer un chantier sur la vallée française. Et c'est notamment pour ça que j'ai été engagée, pour pouvoir coordonner ensuite les 2 chantiers.
D'accord. Et combien de personnes travaillent en tout, alors, au sein de cette ASA aujourd'hui?
6 agents en insertion. Peut-être prochainement 7 ou 8, donc toujours sur Ventalon, sans compter la vallée française. Et voilà. Ça, c'est les agents donc qui sont en insertion. Après, pour les personnes qui gèrent la structure, il y a donc Nathalie qui vient de nous rejoindre, Solène qui s'occupe du côté administratif, et moi sur le poste d'encadrant technique et pédagogique.
D'accord, merci. Et du coup, quels sont les types de travaux que vous faites? Elle en a un petit peu parlé, Nathalie, elle a dit les élagages, vous faites d'autres choses aussi?
Alors, principalement, je dirais à 70%, c'est du débroussaillage. Donc souvent sur terrain très escarpé, on marche parfois une demi-heure, 45 minutes pour arriver sur site. Et le reste de l'année, ça va être de l'abattage, du petit abattage, de la réouverture du chemin de sentier, voilà.
D'accord. Et vous travaillez partout en forêt? Comment ça se passe?
Oui, majoritairement. Alors après, on vient aussi en aide aux agriculteurs parce qu'on a un tarif avantageux pour eux, Et puis, disons que 60% de l'activité qu'on a, ça se concentre sur les communes quand même, sur les trois communes que Nathalie a citées tout à l'heure.
D'accord, merci. Et donc, à 40%, vous faites de la prestation alors?
Exactement. On dira 30% pour les agriculteurs et 10% pour les particuliers.
D'accord. Et tout le monde peut en bénéficier?
Oui, absolument. Absolument.
Du coup, vous travaillez sur tout type de forêt, tout type d'arbres?
Oui, absolument. Oui. Après, on n'est pas...
Il n'y a pas de bûcheronnage, comment dire? C'est du petit bûcheronnage,
oui.
Des petites éclaircies, par exemple, des choses comme ça. Mm-hmm. Comme il y a beaucoup de débroussaillage, forcément, on ne peut pas aller sur toutes les forêts, mais
oui. Voilà. Est-ce que vous travaillez du coup pas mal sur ce qu'on appelle les obligations légales de débroussaillement?
Alors, quand l'ASA a été créé, en fait, le chantier d'insertion a été créé, comme l'a dit Nathalie tout à l'heure, dans les années 90. Mais la structure a été créée plutôt dans les années 80-82, il me semble. À l'époque, c'était les contrats verts. Et là, ça avait vocation vraiment à respecter les obligations légales vis-à-vis des feux de forêt.
D'accord.
Mais ça a dévié un peu avec le temps sur l'insertion par l'activité économique. Mais donc, on garde toujours un peu cette empreinte de d'obligations légales vis-à-vis des feux de forêt.
Mais c'est pas les plus gros. On a très peu de chantiers en fait sur ça au final.
D'accord. Ben ça reste quand même intéressant parce que c'est un chantier qui préoccupe beaucoup les élus et les habitants. Donc c'est intéressant votre action qui a permis de mutualiser finalement des moyens pour travailler ce débroussaillement. Et du coup, est-ce que il y a un lien avec la charte forestière Sud-Lozère?
Alors, pas vraiment de lien direct. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais accompagné la première l'association de la vallée française qui souhaitait développer un chantier d'insertion. Donc, je les ai mis en lien, en fait, avec l'ASA des FCI. Puis après, ils se sont débrouillés, évidemment, tout seuls. Ils ont travaillé ensemble sur un projet de développement sur la vallée française. Donc c'était un projet qui était inscrit dans la charte parce que je les ai aidés, mais ensuite ils volent aujourd'hui de leurs propres ailes. Voilà.
D'accord, très bien. Quels sont les moyens financiers? Donc il y a les communes qui cotisent, j'imagine. Il y a les prestations, vous en avez parlé. Est-ce que vous avez d'autres financeurs?
Oui, en fait on est aidé au poste par la directe, donc c'est l'État, c'est un service de l'État, mm-hmm. et le département de la Lozère.
D'accord.
Et puis, on a des subventions de fonctionnement également par le département par ailleurs.
D'accord, merci. Et alors, tous les deux, alors comment vous êtes retrouvés dans ce projet? Pourquoi vous y travaillez? Qu'est-ce qui vous plaît?
Alors, pour répondre à la première question, comment est-ce que je me suis retrouvé là? Initialement, je suis à mon compte dans l'entretien espace vert. Donc, pas très loin des travaux forestiers, mais pas complètement ça non plus. Et j'ai postulé à l'offre un peu comme une bouteille à la mer en septembre, me disant que ça pouvait être une opportunité. Initialement, j'ai jamais travaillé dans le social, mais je m'en sentais plus que capable et c'est une expérience que j'avais envie de vivre. Donc, ma candidature a été reçue, acceptée et j'ai pris mon poste donc début septembre. Et j'ai rencontré Nathalie à sa prise de poste donc il y a 3 semaines. Et je vais peut-être la laisser.
Ouais, non, mais après moi c'est pareil. En fait, en gros, il y avait l'opportunité d'une offre. J'ai répondu. J'avais jamais travaillé dans le social non plus. J'étais plutôt sur la forêt comme tout le monde. Enfin, pas tout le monde, mais les auditeurs de Palabre en forêt le savent. Mais j'avais envie de changer un peu, de voir ce côté social et puis d'aller aussi dans le concret sur des chantiers.
Ok. Et alors, les personnes qui travaillent avec vous par l'insertion, j'imagine que ce ne sont pas des professionnels aussi. Et comment ça se passe, le travail avec eux? C'est plutôt facile d'apprendre à faire les travaux en forêt?
Oui, absolument. Généralement, c'est des gens qui ont déjà, qui de manière générale, en habitant ici, ont déjà touché une tronçonneuse et une débroussailleuse. Donc, ils connaissent plus ou moins le métier. Après, ça va surtout être de les sensibiliser sur le côté sécurité, le côté académique, on va dire, de faire les choses correctement. Mais oui, de manière générale, au niveau du métier, quand ils arrivent chez nous, pour la plupart, voilà, majoritairement, ils connaissent le travail.
D'accord. Ce sont donc, tu disais, essentiellement des gens du territoire ?
Oui. Alors, on a quelques cas qu'on prend pour les aider à s'installer sur la commune ou aux alentours. Donc, ça peut être des gens qui habitent un peu plus loin et qui viennent sur le chantier d'insertion, disons comme une passerelle, une transition pour à terme trouver un logement ici et s'installer.
D'accord. Et ce sont des gens enfin qui ont quel âge à peu près en moyenne ?
Ça va de 20 ans à 60 ans, vraiment.
C'est varié.
Oui, oui, toutes les tranches d'âge.
Hommes et femmes ?
Hommes et femmes. Alors, on a un peu moins de candidatures pour les femmes. On aimerait avoir une parité, mais ça coïncide plus au niveau des candidatures que de notre côté sur le recrutement. Mais donc, si les femmes nous écoutent et veulent candidater, c'est volontiers.
C'est un appel.
Ok. Ouais.
Et du coup, pour intégrer l'équipe, il y a des critères pour avoir accès à ces contrats de travail ?
Pas vraiment, si ce n'est que d'avoir un projet professionnel ou personnel ou social.
Après, il faut quand même être éloigné de l'emploi, c'est-à-dire être inscrit à Pôle emploi, soit avoir le RSA.
D'accord.
Ou alors, oui, voilà, enfin, c'est quand même des personnes qui ne trouvent pas de travail depuis un petit moment, quoi.
Oui.
Généralement. Depuis au moins 6 mois.
D'accord. Ok. Merci. Et du coup, là, les prochains chantiers, on va dire, pour 2021, il y a des projets en particulier ou.
Bah, pour 2021, le but, là, c'est de développer un chantier sur la vallée française, comme je l'ai dit au début.
Tu en as parlé.
Et donc, peut-être aussi de travailler sur la diversification pour les agents. Donc, on est en train de prospecter sur différentes choses. On va peut-être pas forcément parler là, mais voilà, il y a des idées, mais qui sont pas encore tout à fait claires. Donc, je préfère pas pour l'instant les dire.
D'accord.
Voilà. Et non, c'est le développement du chantier sur la vallée française qui est prévu pour 2021.
D'accord, merci. Et une petite question aussi sur quand vous faites les travaux forestiers, on imagine que voilà, vous avez des déchets, des branches, des arbres aussi. Et qu'est-ce que vous en faites ? Comment vous les utilisez après ?
Oui, pardon. De manière générale, c'est le client, l'agriculteur ou la commune qui le valorise à sa façon. Donc à la demande, si c'est du bois, à la demande, on peut débiter. On peut débiter. Généralement, les gens préfèrent garder. Quand on broie, ils veulent également garder le BRF qui sert généralement sur les cultures, qui est un excellent paillage. Mm-hmm. Et le reste du temps, on n'a pas tant de déchets végétaux que ça. Enfin, je veux dire, on n'en a pas sur les bras. Pardon ?
Vous laissez en forêt ?
Oui, oui, oui.
Ok. D'accord. Et est-ce que vous êtes équipé peut-être d'un broyeur aussi ou pas ?
Oui, 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 tout à fait, oui.
Ouais, Et du coup, est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez un arbre préféré ou une forêt préférée sur les Cévennes ?
Alors, moi, un arbre préféré, tu sais, Virginie, je n'ai pas d'arbre préféré, j'adore les arbres. Mais quand même, bon, j'ai quand même une petite préférence, j'avoue, pour le hêtre.
Ah oui.
Voilà, et puis j'aime bien la forêt du Bougès sur certaines parties, notamment entre le pont de Montvert et Castagnas, et puis vers les Gouales, enfin vers Rousse et Fresnel-Sourd, j'aime bien ces forêts là-bas aussi.
Jolies forêts diversifiées.
Voilà, mais les pins sont très beaux aussi. Hein.
Ok, elle aime tous les arbres. Et toi, Sébastien ?
Ben, moi, Sébastien, étant de Martigues, donc sur la côte, j'ai une préférence pour les pins parasols.
Ah oui.
Que j'ai un peu plus de mal à trouver ici, mais bon. Ah.
Il va peut-être remonter avec le dérèglement climatique. Très bien. Ben, merci à vous deux de nous avoir présenté ce chantier d'insertion par le bois. Et on vous dit à bientôt. Au revoir.
À bientôt.
Merci.
Et maintenant, nous allons faire une petite pause musicale avec Nathalie.
Lassa. Et le titre, Virginie, est-ce que tu peux me le dire? Est-ce que je ne me rappelle plus?
Dégala à la pared.
Voilà, très bien. Donc, petite pause musicale et après, on écoutera Aymeric Simon. À tout de suite.
On retrouve la fameuse rubrique Plante des bois, toujours avec Aymeric Sulmont du Parc National des Cévennes, gardien d'acteur. Et on va parler aujourd'hui apparemment de la bruyère calune. C'est ça, Aymeric ?
Oui, tout à fait.
Mm-hmm. Tu peux nous en dire plus, tout nous dire même.
Alors, parler de la calune, c'est plus trop d'actualité parce qu'elle n'est plus effectivement en fleurs. Mais ça n'en est pas moins une espèce qui est assez omniprésente, en tout cas dans toutes les Cévennes siliceuses. Et tout le monde voit sans doute de quoi je parle. Et on parle là de la bruyère vraie, celle qui fleurit rose, pâle, et qui se distingue de sa cousine qui est la bruyère cendrée, qui a des fleurs beaucoup plus rose fuchsia. Il y a un autre petit moyen mnémotechnique pour s'en rappeler, c'est que la calune, ça commence par un C. Et elle a des rameaux de cyprès. Comme le cyprès, c'est calune, cyprès. Et la bruyère cendrée, elle a des petites aiguilles, comme un petit sapin, si on veut. Et en latin, ça se dit Erica. Donc Erica, aiguille. Alors que la calune, c'est bien un autre genre, c'est Caluna. Enfin voilà. La calune, c'est une grande famille, les Ericacées, dans lequel on trouve les myrtilles, on trouve aussi l'arbousier. Et on retrouve une dizaine d'espèces de bruyères en France. Nous, on en a 4 ou 5 en Cévennes. Et puis après, si on veut en voir beaucoup plus, il faut aller par exemple dans les Pays Basques. Et qu'est-ce qu'elle a d'intéressant, la calune? Ben, elle a plein de propriétés médicinales. La calune, elle est intéressante notamment pour ceux qui ont des problèmes avec tout l'appareil urinaire. Quand on a ce qu'on appelle des cystites ou des infections urinaires, l'infusion de fleurs de calune, c'est vraiment très efficace. Également pour les calculs rénaux, c'est pareil. Et on peut également faire avec des sommités fleuries, des calunes, on peut faire facilement des teintures végétales. Et contrairement à la couleur des fleurs, ça ne donne pas des couleurs roses, mais plutôt jaunes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant sur la calune? Alors, ces dernières années, la calune a pas mal souffert des sécheresses très très fortes. Pourtant, c'est une espèce qui est très adaptée au milieu sec,
C'est
qui vit
dur.
dans des milieux très pauvres. Et moi, j'ai pu observer sur les vallées stévenoles des zones de calune, des grandes zones de mortalité de calune.
Ah oui,
Et
vers où, à
qui,
peu près?
du côté par exemple, vers Saint-Martin-de-Lanzusque, le Saint-Martin-de-Boubou, dans des coins
D'accord.
très exposés. Hein, ces zones où la calune meurt, c'est assez étonnant ce qui se passe derrière. Parce que la calune a une propriété assez remarquable, c'est pour ça qu'on en voit des grandes étendues, c'est qu'elle émet des substances dans les racines qui inhibent la croissance de tous les autres végétaux. Si
Ah,
bien que quand il y a de
d'accord.
la calune, il n'y a que de la calune, ou presque que de la calune. Et quand elle meurt, toutes les graines qui étaient en dormance et qui avaient l'impossibilité de pousser, eh bien, toutes ces graines se mettent à pousser brutalement. Et c'est ce que j'ai pu observer, en fait, après la mortalité d'une grande zone à calune. Il y avait énormément de plantes qui poussaient sous les pieds de calune mort. Donc voilà, c'est à la fois un symbole quand quelque chose meurt, on se dit c'est triste, mais en même temps, il y a
Oui.
plein de choses derrière qui poussent. Ça, c'est assez étonnant chez la calune. On sait tous que la calune, c'est aussi un excellent miel. La plupart des calunes, de toutes les bruyères sont intéressantes pour le miel. L'arbousier, bon, ben, ça donne un miel extrêmement amer qui est plutôt utile pour les abeilles, hein, puisqu'il arrive en fin d'automne. Mais la calune et la bruyère cendrée font des miels qui sont très recherchés. Également la bruyère blanche, la fameuse bruyère arborescente qui pousse côté méditerranéen en Cévennes et qui forme un miel qui est intéressant au mois d'avril. Voilà à peu près le petit tour de toutes les choses qu'on peut dire sur la calune, et c'est loin d'être fini parce qu'on pourrait parler aussi des habitants des zones à calune. Et je vais pas en citer 36, mais j'aimerais citer le petit paon de nuit, qui est un des grands papillons nocturnes de France, et un petit peu plus petit que le grand paon de nuit. Mais ce petit paon de nuit, eh ben, sa denrée préférée, sa nourriture préférée, c'est la calune. Parfois aussi la myrtille, et on le trouve dans les grandes landes à calune. Il fait une énorme chenille, grosse comme un doigt, qui est toute verte à points jaunes entourées de noir. Voilà, ça c'est une belle espèce qu'on peut trouver grâce aux landes à calune. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est ben, il y a tellement de choses à dire sur la calune.
Est-ce que tu peux nous rappeler peut-être quand est-ce qu'elle fleurit?
Oui. Alors oui, ce qui est étonnant chez la floraison de cette espèce, c'est qu'elle est inversée au niveau altitudinal. On a tendance au printemps, à avoir une fleur qui va fleurir plutôt à basse altitude en premier, puis plus haut en altitude, elle fleurira après. Et chez la calune, c'est l'inverse. Elle va fleurir fin juillet, début août en montagne, sur le mont Lozère, par exemple. Et puis, elle commence à fleurir plutôt courant septembre, à plus basse altitude. Et là, encore actuellement, c'est très étonnant, mais à 400, 500 mètres d'altitude, on peut voir en Cévennes des calunes en pleine floraison, alors qu'on est début du mois de novembre. Voilà un peu le décalage saisonnier de la floraison de la calune. Et donc, les grandes landes à calune, au niveau du parc, c'est un habitat qu'on trouve prioritaire, mais même à l'échelle européenne. Et donc, il y a des zones, des grandes étendues de landes qui ont été protégées. Mais c'est assez curieux, cette conception de la protection de cet habitat, puisqu'on s'est aperçu, en étudiant les pollens des tourbières du mont Lozère, que les grandes étendues de landes à calune sont finalement très récentes et datent, d'il y a à peu près 2000 ans. Puisque les premières grandes concentrations de pollen de calune dans les tourbières, c'est il y a 2000 ans. Et donc, ce serait un habitat qui aurait été créé par les grandes périodes de déforestation qui ont commencé il y a 2000 ans. Et donc, avant, on peut supposer que la calune était beaucoup plus discrète sur l'ensemble du mont Lozère, en tout cas. Voilà quelques petits détails historiques sur cette espèce.
Merci. Eh bien, on remercie encore Aymeric Sulman et on te dit à bientôt pour une prochaine rubrique Plantes et Bois.
Oui, allez, au revoir.
Et voilà, cette émission de Palabre en forêt s'achève. Et Nathalie, tu souhaites peut-être nous dire un petit mot de fin?
Et oui, parce que donc moi, c'était ma dernière émission de Palabre en forêt.
Voilà.
Parce que donc je vais être remplacée par un nouveau ou une nouvelle personne qui va arriver et qui sera en duo également avec Virginie. Mais voilà, en tout cas, j'étais très contente de pouvoir faire ces années d'émission bénévole à Radio Bartas. Au départ, j'ai commencé par défermer des arbres avec François. Que je salue si jamais il nous écoute. Et ensuite, Palabre en forêt, Déterminer les arbres ensuite avec Rachel,
oui.
Que je salue également. Et puis Palabre en forêt avec Virginie, qui est un peu la continuité des fermes et des arbres, pas le côté agricole mais le côté forestier. Et voilà, c'était passionnant de pouvoir faire toutes ces émissions de radio sur la forêt. Et j'espère qu'elle va encore durer longtemps. Longue vie à Palabre en forêt!
Et à bientôt peut-être pour une prochaine émission alors.
À bientôt, ouais. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligaud, mon copain le chêne, mon alter ego. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futaies.
Palabre en forêt, l'émission Lozéro-Gardoise qui dévoile et décrypte l'actualité de nos forêts et de la filière bois. Les initiatives locales et les actions d'ici et d'ailleurs sur la forêt. Rendez-vous sur Radio Bartas 107 FM.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter.